Radio Kapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Environ 20 morts et 27 blessés. Bilan provisoire des dégâts causés par des bombes lancées hier après-midi par le M23 sur Mueso, au Nord Kivu. Bilan avancé par les FARDC hier soir à partir de Goma. Cependant, le président du M23 rejette la responsabilité aux FARDC. Contentieux électoral, les candidats aux législatives provinciales et communales qui se sentent lésés sont appelés à saisir les juridictions compétentes en contestation dans les 8 jours à dater de la publication des résultats provisoires. Appel lancé hier par la CENI et ses cours et tribunaux ont 60 jours pour rendre leurs arrêts. Madame, Messieurs, bonjour. Nord Kivu, 19 morts et 27 blessés parmi les civils. C'est le bilan encore provisoire des dégâts causés par des bombes tombées hier après-midi sur les habitations de la population à Mueso. Ce bilan est avancé par les FARDC dans un communiqué rendu public jeudi soir à partir de Goma. Les FARDC déclarent condamner ces morts et ces blessés innocents causés hier à Mueso par le M23. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu parle également de plusieurs attaques enregistrées sur leur position dans le Massissi le jeudi 24 janvier. On écoute le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'une manière professionnelle contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mueso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mueso, les terroristes du M23, appuyés par l'armée rwandaise, ont dans leur fuite largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminé à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23.
Plusieurs maisons d'habitation ont également été soufflées par les explosions des bombes, témoignent plusieurs sources locales, rappelant qu'un grand nombre de la population est resté bloqué dans la cité de Mueso depuis mercredi matin à cause de l'intensité des affrontements. Sur son compte X, le président du M23, Bertrand Bussimoi, a rejeté la responsabilité aux FARDC. Entre-temps, à Goma, la société Virunga Énergie annonce la fin des délestages décidés l'année dernière à la suite des problèmes techniques enregistrés au niveau de la centrale de Matebe. Ces problèmes étaient causés justement par des bombardements répétitifs des lignes de cette société dans la zone sous contrôle du M23. Le directeur de Virunga Énergie explique que les pièces endommagées ont été récemment livrées et installées. Ephraim Balolé le dit au micro de Rosalie Zawadi.
À un moment donné, on était dans l'incapacité de tourner à pleine capacité. On tournait seulement avec 2 groupes turbo-alternateurs et la 3e turbine ne pouvait pas tourner parce qu'il fallait des pièces que nous avons commandées en Europe. Donc, à 2/3 de la capacité, ça signifie que nous tournions avec 8,5 MW alors que la demande à laquelle nous répondons dans la ville de Goma est de 11 MW. La centrale est de 13,8 MW et donc nous étions privés d'une importante capacité de pouvoir répondre à la demande. Et c'est pourquoi nous avons utilisé les délestages dans certains quartiers. J'ai le plaisir d'annoncer que déjà, les pièces qui manquaient sont déjà livrées et nous les avons installées. Je pense que vous avez vu les 2 derniers jours, on n'est plus passé par le délestage. Nous sommes capables de pouvoir livrer les 11 MW que nous distribuons habituellement avec Sokodé. Puisque Sokodé a 5 MW et le reste est distribué directement sur les réseaux de Virunga.
Réagissant à cette annonce, les acteurs de la société civile en province espèrent le rétablissement rapide de la paix. Pour eux, c'est la seule garantie que la ville de Goma sera à l'abri des coupures du courant de la centrale de Matebe installée dans le territoire de Rutshuru, jusque-là sous contrôle du M23 et leurs alliés. Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, nous sommes toujours au Nord Kivu, les écoles primaires Somikar 1 et 2 ainsi que l'école maternelle Somikar de la commune rurale de Mangina restent fermées depuis 2 semaines, selon le chef de la sous-division éducationnelle de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST de Oicha. C'est à cause de la situation sécuritaire depuis les affrontements le 8 janvier dernier entre les FARDC et des présumés combattants Mai Mai à Mangina. Enoch Kaviavu annonce que ces écoles seront délocalisées de la périphérie vers le centre de Mangina pour la sécurité des élèves. Le chef de la sous-division éducationnelle de l'EPST de Oicha explique la situation à Guylaine Kassassia.
3 écoles, dont 1 école maternelle et 2 écoles primaires. Sur ces 3 écoles qui n'ont pas encore repris les activités scolaires, c'est parce que ces écoles sont situées à la porte d'entrée de l'ennemi, à commune de Mangina. Voilà dire que ces écoles sont situées à la périphérie de la commune de Mangina, côté ouest. Et ensemble avec l'autorité communale, le chef d'établissement, nous nous sommes partagés les idées autour de la récupération des jours perdus. Ensemble, nous avons arrêté la décision selon laquelle, vu que nous ne connaissons pas le plat de l'ennemi, nous avons jugé ensemble que ces écoles puissent être déplacées et qu'elles fonctionnent dans les écoles se trouvant en centre communal de Mangina. Nous allons voir comment remanier l'horaire pour que nous récupérions au moins 1 heure par jour.
Rendons-nous en Ituri. La plupart des filles mineures et femmes victimes des atrocités des groupes armés dans le territoire de Djougou se livrent à la prostitution, notamment dans le groupement de Jina, à environ 45 km au nord de Bunia. Des cas de mariage précoce et des violences sexuelles sont également fréquents dans la région, signale une ONG féminine locale. La présidente de cette association alerte les services spécialisés en vue de sanctionner les auteurs de ces actes qui prennent de l'ampleur dans cette entité territoriale suite à l'incendie. Sécurité. Ézéchiel Mouzalia nous raconte.
C'est avec douleur, angoisse et une profonde tristesse que les femmes du groupement Jina digèrent péniblement la dépravation des mœurs qui sévit dans cette entité coutumière. Elles affirment être témoins des scènes érotiques entre des jeunes adolescents qui pratiquent le sexe, soit au champ ou dans des habitations abandonnées par la population qui a fui la guerre. Une femme qui a requis l'anonymat témoigne sur ces graves violations des droits de l'homme.
Les enfants ne nous écoutent plus. La plupart sont des déplacés. Moi-même, j'ai été témoin. J'ai rencontré une femme déplacée avec un jeune garçon dans une maison. Je lui ai dit, ce jeune n'est pas de ton âge.
La présidente de l'association des femmes du groupement Jina indique qu'au moins 6 cas de viol sont déjà répertoriés depuis le début de cette année. Honorine Nzalema demande au gouvernement de rétablir la paix afin de permettre aux nombreuses familles qui ont fui la guerre de regagner leur milieu d'origine.
Si le gouvernement restaurait la paix, cela va diminuer le taux de prostitution ici. Parce que les filles font beaucoup la prostitution juste pour trouver à manger. Ces gens peuvent rentrer chez eux.
Signalons que le groupe Magina compte plus de 10 000 déplacés disséminés dans 5 sites. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, la Commission électorale nationale indépendante CENI appelle les candidats aux législatives provinciales et communales qui se sentent lésés à saisir les juridictions compétentes en contestation dans les 8 jours à dater de la publication des résultats provisoires. Ces cours et tribunaux ont 60 jours pour rendre leurs arrêts. S'agissant des entités où l'élection des conseillers communaux n'a pas eu lieu, le directeur de communication de la CENI a affirmé à Radio Capi hier que la centrale électorale attend que le ministère de l'Intérieur et Sécurité clarifie les conflits de pouvoir et des limites dans certaines communes afin d'avoir la possibilité d'y organiser ce scrutin. Jean-Baptiste Itipo explique au micro de Grâce Amzati.
Pour les candidats députés provinciaux, ils saisissent les différentes cours d'appel faisant office des cours administratives d'appel. Et pour l'élection des conseillers communaux, ceux qui se sentent lésés vont devoir saisir les tribunaux de grande instance faisant office des tribunaux administratifs. C'est vrai qu'on a organisé l'élection des conseillers communaux au 26 chefs-lieux de province. En son temps, la CENI avait bien dit dans un communiqué de presse que ces élections allaient être organisées uniquement dans un premier temps aux chefs-lieux de province, simplement parce qu'il s'est posé un problème de conflit de pouvoir et conflit de limites au niveau de certaines communes et qu'il faille à ce que ces conflits de pouvoir et de limites soient déjà vidés et nous attendons cela. Cela ne signifie pas qu'il y aura nomination, non. Dès que les choses seront clarifiées, la CENI sera prête, n'est-ce pas, à organiser des scrutins dans ces entités-là.
Toujours à propos des élections de 2023, la coordination des opérations électorales de la Muka Koel a dit rejeter en bloc les résultats des élections à tous les niveaux, tels que publiés par la CENI. Cette structure l'a exprimé au cours d'une conférence de presse tenue hier à Kinshasa. S'appuyant sur le monitoring effectué par cette structure, le coordonnateur de Koel a révélé que ce qui s'est passé le 20 décembre 2023 était plutôt un simulacre d'élection avec une fabrication des chiffres. Par conséquent, elle appelle notamment à l'annulation de ces scrutins. On écoute à ce sujet Faustin Kouakoua au micro de Murphy Fika.
Il n'y a pas eu élection parce que toute la fraude, la tricherie a été boutiquée. Et en tant que tel, comme le principe des droits dit, la fraude annule tout. Nous estimons que les résultats ou les chiffres qui ont été publiés ont été fabriqués de toutes pièces. Et là, nous venons de démontrer effectivement que ces chiffres-là ne peuvent pas être acceptés par n'importe qui les analyse et qui les regarde. Nous avons des institutions qui ne font plus leur travail. Les institutions qui sont politisées, la Cour constitutionnelle, la CENI qu'on a voulu neutre, indépendante, est devenue une machine à fabriquer des dirigeants. Les élections ont été entachées d'irrégularités considérables, d'une fraude à l'échelle nationale et qu'elles ne sont pas crédibles. C'est de ça qu'il s'agit. On va pas aller chercher qui a gagné, qui n'a pas gagné. De ce point de vue ou de cette analyse, elles doivent être purement et simplement annulées.
Et puis, le Front commun de la jeunesse appelle le chef de l'État à compter sur la jeunesse pour la gestion de la chose publique et à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes pour la création de plus d'emplois, tel qu'il l'avait dit dans son discours d'investiture. Dans une conférence de presse organisée hier à Kinshasa, cette structure qui dit militer notamment pour la promotion du renouvellement de la classe politique fustige le fait que depuis des décennies, ce sont les mêmes figures politiques qui sont aux affaires. Ces jeunes invitent le président de la République à ne pas céder à la pression de certains acteurs politiques et a créé une surprise dans la formation du futur gouvernement. Écoutez plutôt Don Israël Mboui, président du Front commun de la jeunesse. Il est au micro de Grâce Amzati.
Nous avions compris quelque chose de très important. J'aimerais citer un grand qui pouvait dire en son temps, je parle de Albert Einstein, qui pouvait dire qu'il ne fallait jamais compter sur ceux qui ont causé le problème pour le résoudre. Le Congo a un problème. Est-ce qu'il faudra-t-il laisser la place aux mêmes personnes qui ont causé ces problèmes pour les résoudre à la place des Congolais? Nous sommes là pour mener un combat de la participation active dans la sphère décisionnelle de la jeunesse congolaise. De briser ce cycle de l'oligarchie nous imposé par nos aînés. Le Congo est un bien public pour tous les Congolais. Il est aussi un bien privé pour chacun des Congolais. Il est donc inacceptable qu'une poignée de gens ou une poignée de quelques familles qui doivent s'accaparer du pouvoir politique et même économique de notre pays pendant des générations, ils ont toujours renvoyé la jeunesse dans l'avenir. Entre-temps, pendant des décennies, ils se sont partagés le pouvoir entre eux-mêmes. C'est n'est pas compréhensible qu'à ce jour, même des octogénaires qui courent encore pour le pouvoir, comme qui dirait dans leur propre parti, il n'y avait pas de jeunes. Pourquoi, au moment de proposer des noms, ils ne prendront pas compte de leur propre jeunesse?
Culture. L'ouvrage intitulé Code du travail, recueil des modalités d'application édition 2024 a été porté sur les fonts baptismaux hier dans la salle de formation de la Fédération des entreprises du Congo à Kinshasa. La cérémonie était présidée par le responsable des études de la FEC, Amissi Abdallah, paru aux éditions Concordia et préfacé par Louenye Maloulé, membre de la commission sociale de la FEC. Ce livre de 973 pages est une nouvelle publication de Christian Aimé Dibayolo, consultant associé en matière de management et ressources humaines et directeur général du Centre de formation des normes sociales. Selon l'auteur, cette nouvelle édition constitue un outil de travail indispensable avec une vue d'ensemble complète et actualisée de la législation du travail en RDC. Christian et Mehdi évoquent quelques innovations de cette nouvelle publication au micro de Jean-Marc Matouaki.
Il y a plusieurs innovations. Après 10 ans, donc la dernière édition datée de 2013, après 10 ans, le droit du travail congolais a connu une évolution significative, notamment le SMIG. Il y a eu un nouveau SMIG. Il faut dire aussi que maintenant, avec le code du numérique, l'écrit électronique est devenu une preuve à part entière, comme l'écrit sur papier. Il faut dire qu'il y a eu aussi des élections syndicales. Et actuellement, nous avons les 12 syndicats représentatifs des travailleurs qui font partie du Conseil national du travail. Donc il faut dire aussi que plusieurs autres mesures ont été prises à ce qui concerne les maladies professionnelles. Il y a une nouvelle liste de maladies professionnelles qui a été publiée pour remplacer celle de 1961. Donc je crois que de plus en plus, le pouvoir public est en train d'améliorer les conditions des travailleurs. Et il faut aussi que les gestionnaires des ressources humaines puissent se procurer ce livre pour connaître quelles sont les dispositions qui ont été modifiées, quels sont les droits et taxes qu'ils doivent payer au niveau du ministère du Travail.
Et par ici, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.